Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour tout le monde.
Et de Morden.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Bard's Tale 4, on enchaînera ensuite sur Vampyr, nous évoquerons Red Dead 2, nous parlerons du PlayStation Now, de la PlayStation Classique, et enfin, on terminera sur la news surprise de la semaine, c'est Telltale, qui est à moitié décédé, je crois qu'on peut le dire.
C'est même plus à moitié, là.
Ouais. Bah, techniquement, il y a encore des gens qui travaillent dedans, quoi, mais voilà.
Oui, mais loin de la moitié.
Bon, sans oublier notre jeu du moment, c'était le jeu que ATH attendait pour cette rentrée, à savoir Marvel Spider-Man. Allez, c'est parti. Et je vais commencer avec mon coup de gueule de la semaine. Eh oui, je vais vous parler de Bard's Tale 4, un jeu que, je vous rappelle, j'avais financé. D'ailleurs, j'ai récupéré mes cotes, tout ça, tout s'est bien passé. Sauf que je n'y ai pas encore joué. Alors, je n'y ai pas encore joué en partie parce que j'ai beaucoup de jeux auxquels jouer en ce moment. Bon, déjà, je suis toujours sur Warframe, mais d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle un de ces quatre. Et ensuite, il y a plein de jeux qui sortent ce mois-ci, donc je ne sais plus où vous donner la tête. Et Bard's Tale 4, bah, j'avais très envie d'y jouer. Le problème, c'est que je suis allé sur Steam et que j'ai lu les commentaires des utilisateurs. Et malheureusement, il y a une occurrence qui revient assez régulièrement et c'est hélas une occurrence que l'on voit à chaque jeu que sort In Exile, à savoir que le jeu est pété de bugs. Voilà. Donc, écoutez, je sais que, comme d'habitude, il y a des gens qui vont dire « Ah bah non, chez moi ça marche bien, hein, j'ai pas de problème, ça marche très bien. » Oui, sauf que malheureusement, pour travailler dans une boîte qui fait du support technique, je suis bien placé pour savoir qu'on n'est pas tous égaux face aux bugs, hein, que c'est pas forcément de la faute des utilisateurs, et que malheureusement, c'est un jeu qui a sûrement été codé avec le cul, voilà. Écoutez, à un moment donné, je ne comprends pas. On est à une époque où tu as la possibilité de faire des accès anticipés. Pourquoi est-ce que cette boîte sabote systématiquement la sortie de ses jeux en les sortant finis à la pisse sans avoir fait un accès anticipé propre avant? Je vais reprendre par exemple Torment, qui est leur précédent de jeu. Comme par hasard, la partie qu'ils avaient mis en accès anticipé, c'était la partie la plus propre. Et comme par hasard, tout le reste qu'ils n'avaient pas mis en accès anticipé, c'était fini avec le cul. Est-ce que à un moment donné, alors je veux bien qu'on veuille se garder de spoiler les joueurs, mais après tout, les joueurs sont grands, ils font ce qu'ils veulent. Et puis surtout, enfin, je suis désolé, quand t'as prouvé à de multiples reprises, que ce soit sur Torment, que ce soit sur Westland 2, que ce soit sur tous tes jeux, que tu n'es pas capable de finir un jeu proprement, pourquoi est-ce que tu ne sors pas l'intégralité de ton jeu en accès anticipé pendant quelques mois, tu débugs ton jeu à fond, le plus possible, et tu le sors dans l'état le plus propre possible? Je ne comprends pas, ça me dépasse.
Surtout que j'ai lu les bugs qu'il y avait, c'est pas des petits bugs mineurs, il y a quand même des chutes de framerate importantes, des écrans noirs.
Des chargements qui te rappellent la PlayStation.
Ouais, voilà, je veux dire, c'est quand même un problème d'optimisation assez clair là, sur ce qu'on voit.
Oui, des bugs de quête, en plus, enfin voilà, la totale quoi. Donc à un moment donné, enfin, moi je sais pas, quelque chose à ajouter ou on passe à la suite?
Non, juste un petit message pour les gens qui voulaient aussi jouer à Batman Arkham Knight sur PC. Ils comprendront quoi.
Bon, Morden.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de Vampyr qui a fait une annonce cette semaine?
Ouais, c'est Dontnod Entertainment qui a annoncé deux nouveaux modes de jeu, en fait, dans son dernier jeu Vampyr. Un mode difficile et un mode histoire, donc un mode où il sera plus question de vivre l'histoire du personnage principal, le docteur Jonathan Reed, avec un gameplay qui sera plus facile. Et de l'autre côté du spectre, évidemment, l'ajout du mode difficile va rendre les combats beaucoup plus compliqués et donner moins d'expérience aux joueurs quand ils tuent un ennemi. Donc voilà, c'est deux nouvelles façons de jouer à ce jeu. Évidemment, l'expérience originelle du jeu va être baptisée mode normal, pour vous permettre de jouer au jeu tel qu'il est sorti en l'état.
Voilà, alors, Pourquoi je voulais qu'on parle de cette news cette semaine? Parce que Vampyre, c'est un peu ma déception de l'année, vous voyez. C'est un jeu que j'attendais et qui m'a énormément déçu. Pourquoi il m'a énormément déçu? Entre autres, justement, parce que ces combats avec une dissonance ludonarrative, en veux-tu, en voilà. Enfin, je sais pas si vous imaginez, t'as un perso qui est tout le temps là à te dire « Oh là là, tuer des gens, oh mon dieu, c'est horrible, mon dieu, je suis un monstre, pourquoi ?» Et qui derrière se nourrit goulûment de tous les connards qu'il croise sur son chemin, des connards qui l'attaquent à vue d'ailleurs, je sais pas, c'est comme s'il y avait marqué vampire sur sa gueule, tu vois. Le principe du vampire, a priori, justement, tu sais, c'est qu'il est plutôt discret. Et je sais pas, il y a des PNJ comme ça dans la rue, tous les PNJ que tu croises quasiment, ils t'attaquent à vue, tu sais pas pourquoi. Voilà. Sans que jamais une explication te soit fournie, quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà. Donc, Vampyre, c'est un jeu qui m'a énormément déçu, qui m'est tombé des mains, tout simplement. Et alors, même si j'apprécie l'initiative de mettre un mode histoire qui permettra peut-être de profiter un peu plus du jeu sans se taper des combats médiocres. Alors, c'est pas un jeu qui a des combats qui sont inintéressants, si vous voulez, mais en gros, c'est du sous-Dark Souls, quoi. Enfin, c'est sympa, mais sans plus. Et surtout, enfin, à un moment donné, je veux dire, je suis désolé, par contre, c'est pas en mettant un mode facile que tu vas régler les problèmes fondamentaux du jeu. Ces derniers temps, notamment pour moi, le fait que la première chose qu'on te demande quand tu vas leveler pour la première fois, c'est de choisir des skills pour ton perso, et là, t'as que des skills de combat. Et c'est là que tu comprends qu'il y a un problème dans son putain de jeu, parce que c'est un jeu où on te dit que oui, tu vas devoir lier des relations avec les personnages, etc. Sauf que toute la partie RPG, entre guillemets, en dehors des dialogues, c'est combat, 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 combat. Tu ne débloques que des skills pour les combats. Tu n'as aucun skill pour, par exemple, te déplacer plus discrètement ou pour charmer les gens ou ce genre de choses. Non, non. Tes pouvoirs de vampire, c'est tuer, 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 tuer. Donc, pour moi, de base, intrinsèquement, c'est un jeu qui a des problèmes de dissonance ludonarrative dans la manière dont il a été conçu. À savoir que, d'un côté, tu as les dialogues et de l'autre, tu as les combats. Et ces deux phases de jeu, t'as l'impression qu'en fait, on a pris deux jeux séparés, tu vois, on les a collés ensemble et on a dit, vas-y, ça va faire un super jeu, ça va être génial. Donc, pour moi, de toute façon, alors, c'est bien pour les gens qui en avaient ras le cul des combats et qui appréciaient quand même suffisamment l'histoire, on va dire, pour pouvoir continuer si on baissait la difficulté du jeu, quoi. Mais personnellement, ça suffira pas parce que, tout à beau baisser la difficulté du jeu, en fait, ça changera rien au fait que, il y a une putain de dissonance ludonarrative dans ton jeu et que moi, ça me sort tout le temps, quoi. Et ça, plus le fait que, d'un point de vue gameplay, je trouve pas ça très intéressant d'avoir un jeu binaire comme ça, où en gros, c'est dialogue d'un côté, combat de l'autre, et y a aucune porosité entre les deux, et y a aucune interaction avec les pouvoirs que tu peux avoir en tant que vampire, etc. Enfin bref, pour moi, c'est un beau gâchis. Voilà. ATH ?
Ouais, je voulais revenir sur, en fait, le choix d'incorporer ces deux modes de difficulté. C'est un choix qui est quand même assez pertinent aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les autres jeux. Parce que je sais pas si vous avez déjà regardé, mais par exemple, quand on regarde les succès des jeux, on a la chance, sur PlayStation, contrairement à Microsoft, d'avoir le pourcentage de personnes qui ont eu tel type de trophée.
Ouais, sur Steam, c'est pareil, ouais.
Ouais, et quand vous regardez, en fait, les jeux que vous avez dans votre catalogue, par exemple, pour vous, je vous pose une question tout simple, mais vous pensez que le niveau de difficulté que les gens terminent le plus sur un jeu, c'est lequel?
Normal.
Ouais, moi j'aurais dit normal aussi, ouais.
Parce que j'aurais tendance à penser que les gens ils vont pas fouiller dans les menus en fait. Je précise hein, parce que je dis pas normal parce que je pense que les gens se disent ah oui non mais facile quand même voilà non non je pense qu'ils mettent normal parce que je pense que la plupart des gens ne prennent même pas la peine d'aller checker les menus.
En fait. Ouais mais parce que en fait maintenant quand on lance un jeu en général ils proposent le choix avant de commencer l'aventure.
Ah, d'accord.
Et moi donc j'ai checké parce que à un moment je voulais faire un petit peu sur une chronique là-dessus sur les succès que nous disent par rapport aux jeux vidéo. Et donc, j'avais checké un petit peu sur les jeux que j'avais pour regarder les niveaux de difficulté lesquels étaient plus joués. Là, je vous donne un exemple tout bête, mais Uncharted 4, il est joué à plus de 60% en facile, 30% en mode normal, et le mode difficile, c'est même pas 6% des gens qui y jouent.
D'accord.
Donc, du coup, je me suis dit, ouais, mais, enfin, je pensais, tu vois, que les gens, ils disent, bon, je veux l'expérience normale, quoi, pas trop difficile, pas trop facile. Mmh. Mais en fait, vraiment, le grand public, il joue au jeu en mode facile juste pour profiter de l'histoire, quoi.
D'ailleurs, à propos de difficultés, il y a un truc que j'apprécie de plus en plus parce que je vois dans plus en plus de jeux et je trouve ça intéressant. C'est les développeurs qui te disent dans quel mode de difficulté a été pensé le jeu, en fait. Moi, j'ai pensé mon expérience de jeu comme ça. Après, si tu veux l'altérer, tu peux le faire. Mais pour moi, le jeu, il doit se jouer comme ça. C'est-à-dire qu'on te laisse le choix, mais en même temps, le développeur garde un certain contrôle créatif en te disant « Nous, l'expérience de jeu, on l'a pensé comme ça, après vous jouez comme vous voulez, mais nous, on l'a pensé comme ça. » Et j'avoue que j'apprécie assez cette initiative, parce que, tu sais, à la base, dans tout ce qui est question de choix de difficulté, etc., j'ai toujours tendance à penser que la priorité, c'est la vision créative de l'auteur, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien les jeux en général qui prennent le parti pris de dire « Nous, on a une seule difficulté, et c'est la difficulté qu'on a choisie pour notre jeu, parce que nous, on veut que notre jeu il soit vécu comme ça. » Point. Par contre, je trouve aussi bien ces développeurs qui disent « Écoutez, on vous laisse quand même le choix, mais si vous voulez expérimenter le jeu comme on l'a prévu, il faut jouer comme ça. »
Et aussi le fait qu'avant, en fait, sur pas mal de jeux, on n'avait pas le choix de la difficulté. C'était le jeu, il était comme ça, et on n'avait pas le choix. Les jeux, par exemple, sur NES ou Mega Drive, il y avait qu'un mode de difficulté, donc, et les jeux à l'époque étaient beaucoup plus difficiles. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que mon expérience de jeu est un peu altérée, parce que je mets souvent les jeux en difficile, parce que je trouve que le mode normal, justement, il est trop simple. Et du coup, je me dis que je joue pas l'expérience telle qu'ils ont voulu les développeurs.
Ouais.
Et ça, c'est un petit peu embêtant, parce que c'est moi qui suis obligé de, entre guillemets, de proposer du challenge pour que le titre m'attire un peu plus, quoi.
Bah, surtout que, en plus, tu sais pas à l'avance, bon, sauf si tu joues à un jeu Ubisoft, là, tu sais à l'avance à quoi t'attendre. je veux dire, quand tu connais pas bien un développeur, tu sais pas à l'avance à quoi t'attendre en jouant à leur jeu, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien que le développeur te dise, nous, on veut, enfin, en tout cas, nous, on l'a pensé, l'expérience comme ça, et c'est ce qu'on veut vous proposer. Comme ça, derrière, même nous, tu sais, quand on critique les jeux, je trouve que c'est intéressant aussi de jouer dans le mode difficulté dans lequel le jeu a été pensé pour voir ce que le développeur voulait transmettre, en fait.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il y a des modes de difficulté aussi qui sont pas forcément toujours très bien pensés. Souvent, en fait, ça va être juste jauger si il faut mettre plus d'ennemis, ou si les ennemis vont taper plus fort, ou si
ça va être des sacs à PV.
Voilà, ou si le joueur il va prendre plus de dégâts. Souvent, je trouve que c'est pas toujours très clair comment le mode de difficulté a été pensé. Si c'est juste un truc qui a été rajouté comme ça, à la va-vite, et qui est pas forcément pensé pour être agréable à jouer, ou si c'est vraiment quelque chose qui apporte à une dimension de jeu supplémentaire, quoi.
Voilà. Bon, allez, ATH, j'espère que your body is ready, n'est-ce pas? Parce que là, on va parler de Red Dead 2. Il y a les previews qui sont sortis, hein, je précise, c'est pour ça qu'on en parle. Il y a plein de previews. Bon, je suppose que vous les avez pas manqués, hein, mais je précise pourquoi on en parle.
Voilà. Et donc là, c'est un peu un récapitulatif pêle-mêle de tout ce qui s'est passé sur les previews anglophones et francophones. Donc déjà, la première annonce, c'est Red Dead Online est annoncé pour novembre. On sait pas si c'est début ou fin novembre. Et en plus de ça, il précise bien Red Dead Online Beta. Parce qu'on se souvient du calvaire de GTA V quand il était sorti. Le mode en ligne, c'était un peu compliqué.
Avec un petit troll de Devolver Digital au passage qui a posté un tweet à Rockstar en disant « En fait, si vous voulez, on connaît des gens de Steam avec des kits de développement sur PC. si vous voulez développer, pas de problème. »
Ouais. Et d'ailleurs, d'après certaines rumeurs, la version PC est pas mal compromise de ce que j'ai entendu. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. Alors après, autre information supplémentaire, c'est que la vue FPS est confirmée pour Red Dead Redemption 2 et le jeu sera jouable du début à la fin avec cette fameuse vue FPS. Maintenant, parlons musique. Alors, c'est Woody Jackson qui revient sur Red Dead 2. Woody Jackson, c'est qui? C'est le mec qui avait fait les compositions en fait sur le premier Red Dead tout simplement et qui était juste sublime, quoi. Alors maintenant, on va passer en fait à la grosse partie des previews, et ce que j'ai voulu retranscrire le plus en fait, c'est vraiment que Red Dead 2 par rapport au premier, on va plus s'orienter vers un jeu plus RPG que à l'accoutumée. Je dirais même un peu Shenmue, tu vois, dans l'âme, parce qu'il y a vraiment des trucs. Tu te dis, ouais, là, il faut vraiment être taré pour avoir ce souci du détail-là. Par exemple, les PNJ seront plus réactifs aux actions du joueur. Si vous vous baladez avec une arme dans la rue, certains PNJ pourront être mécontents de vous. Et surtout, ce qui se passera, c'est que, par exemple, si vous déclenchez une bagarre dans un saloon, à ce moment-là, il y aura des PNJ qui pourront venir soit vous aider, soit venir pour vous casser la gueule, parce que dans le jeu, il y aura le système d'honneur qui était présent dans le premier. Et du coup, en fait, il y aura plein de trucs comme ça qui vont être incorporés dans le jeu pour donner un peu plus de vie. Et par exemple, il y aura aussi une touche. Cette touche, qu'est-ce qu'elle va te permettre de faire? Par exemple, ça va te permettre de saluer un shérif ou quelque chose comme ça, ou aussi de menacer un PNJ. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le petit côté roleplay du jeu qui va être incorporé.
Bah surtout, ça t'immerge encore plus dans l'univers. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros problème avec pas mal d'open world, c'est ce côté. En fait, t'as l'impression que ouais, il y a des PNJ qui se baladent tout ça, mais t'as pas d'interaction avec, quoi. Tu vois. Enfin, ça fait très jeu vidéo, quoi, en fait. Mmh. Et ce souci du détail, justement, c'est ce genre de détail qui peut te faire oublier ça, quoi.
Parce qu'il y a le côté, en fait, dans, notamment dans GTA. Que tu peux faire n'importe quoi autour d'eux, les PNJ feront toujours leur petit bordel de leur côté, en fait. Mmh. C'est assez présent, notamment dans les open world Ubisoft, encore plus. Genre dans Watch Dogs, par exemple. Tu fais n'importe quoi, et ça n'a aucune incidence, en fait, sur en dehors du côté recherche par les flics, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, ça m'intéresse beaucoup.
Bah là, en gros, tu te comporteras comme un connard, on te traitera comme un connard.
C'est ça. Voilà.
J'aime.
Maintenant, je vais parler du héros, donc, qui est Arthur Morgan. Donc, le jeu, c'est une préquelle, en fait, au premier Red Dead. Il y aura beaucoup de choses qui vont être faites pour donner un sentiment de vie à ce personnage-là. Par exemple, dans le premier Red Dead, on avait des tenues, mais c'était des tenues qui étaient débloquables et qui étaient des sets complets. Là, on pourra vraiment aller dans des magasins, par exemple, et acheter soit un chapeau, soit un t-shirt, etc. Bon, ça, c'est le côté un peu cosmétique du truc. Mais aussi, le personnage aura une gestion de son alimentation et de sa fatigue qui vont être pris en compte. Un peu comme dans GTA San Andreas, si vous vous rappelez, à l'époque.
Ouais. Mais en encore plus poussé. Parce que j'avais lu un exemple. Les différentes coupes de barbe que tu pourras avoir, ça dépendra de la longueur de ta barbe, en fait. C'est-à-dire que dans un GTA San Andreas, tu pouvais mettre n'importe quelle coupe sur toi. Ouais, peu importe. Ouais. Tu vois, l'état de ton personnage. Mmh. Là, certaines coupes de barbe ne seront accessibles que si ta barbe est suffisamment longue pour qu'on puisse la travailler, tu vois. C'est ce genre de souci de détail à la con qui t'immerge encore une fois dans le jeu.
Et par exemple, moi, le truc qui m'a plus halluciné, c'est que, bon, déjà, pendant les combats, tu pourras perdre ton chapeau. Mais si tu perds ton chapeau, c'est pas ton chapeau va réapparaître juste après. Soit tu devras aller le récupérer à l'endroit où tu l'as perdu, ou soit tu prendras un chapeau sur un ennemi que t'as tué et tu continues avec. Mais le truc qui m'a le plus impressionné dans ces previews, c'est que apparemment, lors d'un combat où quand tu te fais tirer dessus, bah ton personnage va être blessé, par exemple à l'épaule, et bah il aura toujours cette fameuse blessure à l'épaule qui va être visible. Le personnage va garder des séquelles de ses affrontements, et ça c'est un truc qu'on n'a jamais vu encore aujourd'hui, quoi.
J'avoue, c'est
surtout enfin de l'innovation dans les open world, quoi. Putain. Ouais. Je veux dire, à part peut-être Shadow of Mordor qui avait tenté certaines choses, et encore en pompant quand même 2-3 choses à côté, hein, oui, on va pas se cacher. Là, quand même, ils annoncent beaucoup de choses qui sont nouvelles, quoi. Et ça fait plaisir à entendre. Franchement, ça fait plaisir.
C'est ce qui ressort pas mal de ces previews, c'est le côté les pionniers de l'open world repoussent encore les limites du genre qu'ils ont aidé à créer, quoi.
Ouais, bah pour moi en fait dernièrement ceux qui avaient repoussé un peu l'open world dans son concept c'était Zelda Breath of the Wild avec ce côté un peu t'es dans un bac à sable et tu peux aller encore plus loin grâce au moteur physique qui était poussé. Et là Red Dead ils vont pas sur ce même terrain là mais ils vont sur vraiment le détail,
l'immersion.
Voilà. Et on verra bien ce que ça va donner. Ah, maintenant, j'aimerais bien vous parler aussi du compagnon du joueur qui est le cheval qui aura sa propre barre de santé, sa propre barre d'endurance. Si vous prenez soin de lui, eh ben, il aura moins peur lors des gunfights. Et aussi, un truc tout bête, les développeurs de Rockstar ont insisté sur le fait que maintenant c'est fini, le cheval magique qui apparaît n'importe où, tu le siffles dans une plaine et il apparaît. Là, en fait, plus ton cheval t'aura d'affinité avec lui, plus tu pourras l'appeler de loin. Mais tu pourras pas l'appeler si t'es à l'autre bout de la map, par exemple. Et du coup, si ton cheval va mourir, eh ben, il va pas réapparaître plus tard, quoi. Il faudra soit en racheter un autre, et du coup, il faudra recommencer son leveling depuis le début.
La permadeath du cheval, mon dieu.
Ouais, mais je pense que ça permettra, si c'est bien fait, de s'attacher vraiment à son compagnon, quoi.
Ouais, alors ça, par contre, juste une petite remarque. Moi, je veux bien, mais faut s'assurer, tu sais, qu'il y ait pas, genre, des bugs au niveau du moteur physique, ce genre de choses, ou genre, tu fais un saut et ton cheval, il meurt, et là, t'as l'air très con, quoi.
Ah oui, mais ça, on pourra le savoir que quand on aura le jeu sous la main, quoi.
Et puis, le côté, parce que moi, tu parlais de Breath of the Wild tout à l'heure.
Ouais.
Le cheval qui se bloque dans des collines ou dans des rochers, tu l'appelles, il vient pas, enfin voilà, des trucs dans ce genre-là, ça peut très vite devenir très chiant. J'espère qu'ils se sont assurés que le cheval fonctionne très bien. En partant du principe que tout fonctionne bien, ça peut être très intéressant le côté permadeath du cheval, puisque c'est beaucoup d'investissement. Non seulement de la thune, évidemment, in-game, mais aussi de l'investissement en temps pour que ce compagnon-là il soit à la hauteur de tes attentes. Ça crée un lien hyper important avec le joueur. Enfin, t'as vraiment pas envie qu'il crève, quoi.
C'est
donc
ça
peut être très très cool.
Et tu pourras aussi, par exemple, doper ton cheval, tu vois, lui donner des fortifiants. mais c'est pas trop conseillé de le faire trop souvent parce que ton cheval, sur le moment T, ça va peut-être t'aider, mais si tu le fais trop souvent, bah, il risque d'avoir des conséquences, quoi.
Et enfin, il y a aussi le côté gestion du camp, ATH.
Alors ça, c'est quelque chose qui a l'air aussi d'être intéressant parce qu'il faudra nourrir ses compagnons, chasser pour le camp, ramener de la viande, etc. Après, il y aura aussi plein d'activités annexes dans le camp où tu pourras discuter avec tes compagnons, faire des jeux avec eux.
Et aussi, tu pourras influencer le destin des compagnons. Surtout, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai lu. C'est-à-dire qu'en fonction des interactions que tu auras avec eux, ça aura un impact sur l'histoire. Et l'histoire de tel ou tel perso ne se terminera pas de la même façon en fonction des interactions que tu auras eues avec lui tout au long du jeu. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est le côté social qu'il y aura dans ce camp-là, sachant que, je rappelle, donc on joue dans la bande de Dutch. À un moment donné, on devrait sûrement voir popper un certain John Marston, n'est-ce pas?
Bah en fait, ouais, mais il a déjà été présenté dans le jeu. En tout cas, enfin peut-être que le seul personnage sur qui le destin ne pourra pas changer, ça sera John Marston parce qu'on connaît sa suite. Ouais. Et il y a aussi le côté où ils veulent instaurer vraiment une mécanique de vide dans le camp. Il y a certaines activités que tu pourras faire que si t'es bourré et d'autres que tu ne feras pas. Et il y a aussi enfin plein de trucs qui ont été rajoutés comme ça pour donner un peu plus de détails et de richesse à l'environnement.
Et de surprise surtout. Enfin moi ouais. C'est ça. J'espère par contre qu'ils, tu sais, qu'ils nous ont pas tout spoilé dans les previews parce que ce serait bien qu'il y ait deux trois trucs comme ça qu'on découvre de nous-mêmes.
Ah ouais, c'est pour ça en fait moi j'ai pas trop envie de trop en dire parce que je veux pas entrer dans le détail à chaque fois pour que les gens se fassent à peu près une idée. Après si les gens ont envie de savoir un peu plus, bah ils ont qu'à lire les previews et puis s'enseigner d'eux-mêmes. Et je voudrais terminer aussi sur les armes à feu. Alors les armes à feu, il faudra qu'elles soient entretenues dans le jeu. Sinon, elles peuvent s'enrayer ou bien être moins efficaces au moment des combats. Donc il y a vraiment une gestion des armes à feu très poussée là-dessus. Et aussi, c'est fini d'avoir un bazooka, une Kalachnikov. Là, le joueur ne pourra posséder que apparemment deux armes sur lui. Toutes les armes que Arthur Morgan pourra posséder seront visibles sur lui. Tu pourras avoir des fusils dans les sacoches du cheval. Si tu veux utiliser un fusil à pompe, tu devras aller à la sacoche du cheval, prendre le fusil à pompe pour pouvoir l'utiliser. Mais tu pourras pas te balader avec 50 armes sur toi en même temps.
Alors ça par contre, ça, c'est le genre de feature à chaque fois. Moi j'ai toujours l'impression que ce genre de mécanique, ça vient pas m'emmerder au bout d'un moment, mais j'attends de voir hein, comment c'est géré, etc. Est-ce que ça va rendre le gameplay plus intéressant. Mais à chaque fois que j'ai vu un jeu qui introduisait des notions de mécanique d'usure des armes, ça m'a systématiquement fait chier. Hein. Typiquement les Souls, moi ça m'emmerdait, mais puissance 3 milliards. Quoi, donc,
je pense que le pire dans tout ça qui allait vraiment assez loin, c'était Far Cry 2. Où tu pouvais tirer avec le bazooka et il t'explosait la gueule. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça que je parlais un peu de Shenmue, d'aller vraiment dans cette simulation de vie western. Ça pourrait être assez intéressant. Après, il y a plein d'autres détails qui vont revenir, mais bon, je vais pas tous les citer. Mais pour finir, par exemple, quand tu vas dans une échoppe, tu passes en vue à la première personne et là, tu peux examiner les articles. C'est-à-dire que ça sera plus un menu comme dans les anciens Red Dead. Par exemple, un revolver. Tu peux savoir quelle crosse tu vas lui ajouter, le type de munition, etc. Et du coup, ça va être vraiment pousser à ce niveau de détail-là.
Seamless, comme disent nos amis américains, n'est-ce pas? Bon, allez, on va passer à la suite, et on va maintenant parler du PlayStation Now. Le PlayStation Now qui vient de faire ce que j'appelle personnellement un aveu de faiblesse, n'est-ce pas? À savoir que désormais, on pourra très bientôt télécharger les jeux, tout simplement. Donc je rappelle, le PlayStation Now, à la base, le concept, c'est quand même de streamer les jeux. Hein, voilà. Donc très bientôt pour 15 €, hein, je dis pas 14,99 parce qu'à un moment donné il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, le prix c'est 15 € par mois, vous pourrez télécharger des jeux chaque mois, sachant que la liste des jeux du PlayStation Now est assez conséquente, il y en a 650 aux États-Unis et 550 de par chez nous, donc c'est quand même pas mal, surtout qu'il y a des gros jeux, hein, notamment Bloodborne par exemple, en grosse exclusivité. Donc voilà, pour moi je trouve ça intéressant, je trouve que c'est un service pour le coup qui m'intéresse beaucoup plus que de streamer des jeux. Et puis bon, par contre voilà quoi, pour moi on vient de reconnaître implicitement que le streaming c'est bien, sauf quand la majorité des gens ont une connexion pourrie quoi. ADH.
Ouais, et je veux relativiser un peu le chiffre que t'as donné parce que il y a 550 jeux par exemple en Europe en comptant les jeux PlayStation 3. Sachant que les jeux PlayStation 3, eux, tu ne pourras pas les télécharger parce que la PlayStation 4 n'émule pas la PlayStation 3.
D'accord.
Du coup, en fait, tu pourras télécharger uniquement les jeux PlayStation 4.
Et PS2.
Oui, parce que PlayStation 2, c'est beaucoup plus simple à faire tourner sur la PS4. Mais la PS3, elle avait une architecture vraiment différente et assez compliquée que même eux, ils arrivent à reproduire sur leur future console. Et du coup, bah là, déjà, ça perd un peu de son intérêt, moi, je trouve, parce que le plus gros catalogue, c'est vraiment les jeux PS3, hein.
Ouais.
Et même les jeux qu'il y a sur le catalogue exclusif PlayStation 4, tu vois, par exemple, t'as pas les dernières grosses sorties, t'as God of War, mais c'est God of War 3, c'est pas le God of War.
Autant pour moi, donc ouais, effectivement, c'est tout de suite beaucoup moins...
Voilà, beaucoup et par exemple,
c'est dire à quel point je suis renseigné sur ce qui est sur PC.
Ouais, non, mais par exemple, tu vois, le Marvel Spider-Man, tu peux dire, ah cool, bah je vais payer 15 euros, je me le fais en un mois, et puis après, voilà.
Ouais.
Bah là, non, ça marche pas, parce que c'est vraiment une liste limitée. Après, t'as des jeux quand même assez intéressants, par exemple, t'as le Gravity Rush, t'as le Killzone, mais t'as pas vraiment les derniers gros jeux. Par exemple, là, il y a Street Fighter 4, enfin Ultra Street Fighter 4, mais t'as pas le Street Fighter 5, alors que c'est le jeu qui est joué en ce moment, quoi.
Mm. Ouais, je suppose que tant que ça se vend, ça n'arrive pas sur le PS Now, quoi.
Bah ouais, c'est ça, en fait. Et encore, tu vois, parce que là, on a Bloodborne, mais dans la liste, je vois même pas Uncharted 4, par exemple, alors que c'est un gros jeu pour Sony, tu vois.
C'est intéressant, quand même, cette histoire de téléchargement annoncée la semaine du lancement de l'offre en ligne de Nintendo. Ça fait un peu, tu sais, réponse... Alors catalogue NES, machin...
Ouais, mais bon, comme a dit Tyran, c'est quand même un aveu de faiblesse pour un... à la base un service de streaming, quoi.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, on peut aussi voir ça comme une feature, quoi.
Ouais, mais, non, bon... mais après, c'est toujours un ajout, quoi. C'est... Bon, ouais. À titre personnel, je vous avoue que... Bon, vous avez bien vu, hein, j'étais tellement renseigné sur les jeux qu'il y avait dans le catalogue que voilà, ça en dit long sur mon intérêt sur le truc.
C'est clair, ouais.
Mais j'imagine bien, tu sais, le gars qui va attendre un peu et qui va payer 15 euros pendant 2-3 mois et qui va se faire tous les exclus principales, on va dire, et voilà, quoi.
Ouais, mais bon, déjà, il a intérêt d'avoir une bonne connexion parce que les jeux PlayStation 4,
c'est clair.
On va dire, en moyenne, c'est 40 gigas. Si tu télécharges les 40 gigas sur ta console, bah t'as intérêt d'avoir une bonne connexion parce que si t'as une connexion faible déjà pour télécharger 40 gigas et tu veux le faire
t'es
vraiment
mal barré, hein.
Ouais, juste en un mois, t'as intérêt à être assez bon quoi pour pour pouvoir profiter du titre dans des bonnes conditions. Après c'est vrai que par exemple le fait d'avoir le jeu sur ta bécane installé, t'auras pas les problèmes de latence et du streaming, mais en contrepartie t'as pas l'accès immédiat, donc voilà, c'est le cul entre deux chaises encore pour moi, quoi.
Non mais après on te laisse le choix, quoi.
Ouais, ouais, c'est bien.
C'est toujours mieux que le délire habituel de cette industrie où on te dit non, maintenant on va faire comme ça et voilà, c'est comme ça.
C'est ça, ouais. Et ça relance aussi un peu l'intérêt des PS4 à 2 Tera aussi.
Aussi. Bon, on va passer à la news, moi je vais dire ça, la news mouif de la semaine. C'est l'annonce de la PlayStation Classic.
La PlayStation Classic annoncée au prix de 99 € sur le sol européen, qui arrivera le 3 décembre prochain, avec 20 jeux préinstallés sur la console, dont 5 ont été annoncés à l'heure où je vous parle. Ces 5 jeux sont Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer, Tekken 3 et Wild Arms, qui arriveront. Donc la machine sera livrée avec 2 manettes, un câble HDMI pour le brancher sur les télé actuelles, mais par contre l'adaptateur USB ne sera pas fourni.
Ouais, il y a qu'un câble USB, donc vous vous démerdez comme les Nintendo classiques.
C'est ça.
Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en pense de cette news?
Est-ce que je peux résumer?
Ouais, vas-y.
Voilà.
Non, mais même les jeux, déjà, sur les 5 qui sont annoncés, Jumping Flash, Ridge Racer...
Rappelle quand même aux gens ce que c'est Ridge Racer, parce que je suis sûr qu'il y a plein de nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, en fait.
Alors, Ridge Racer, en fait, c'était un jeu à la base arcade. Quand il arrivait sur PlayStation, c'était un jeu qui était techniquement assez avancé et puis qui donnait une belle 3D.
Hein, disons.
Oui.
Mais
sauf qu'il n'y avait qu'un seul circuit. Il y avait un seul circuit dans tout le jeu et une voiture disponible.
Génial.
À la place de Ridge Racer, pourquoi mettez pas Gran Turismo 1 ou 2? Comme ça, c'est des jeux qui vous appartiennent.
C'est clair.
Enfin, je sais pas.
Parce qu'il faut les vendre à TH derrière. Il faut les vendre. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont fait des annonces à ce niveau-là. Je crois pas d'ailleurs. Non. Mais à mon avis, tu vas casquer derrière. Hein. Faut te faire payer. Hein. Tu vas payer, mec.
Non, mais en plus de ça, tu vois, ce qui aurait été intéressant, c'est que la machine arrive avec 20 jeux et que le boîtier soit rétro-compatible. Et du coup, tu peux jouer à tes anciens jeux, tu vois.
Ouais, il n'y a pas de lecteur de disque hein, en plus.
Ah non, non, c'est juste comme la NES Mini, quoi. C'est décoratif.
C'est d'autant plus impossible que la console classique est 45% plus petite que la console... qui est sorti à l'époque, quoi.
C'est ça, mais en plus de
donc
ça,
c'est pas possible.
Faites une connexion en ligne au PlayStation Store.
Bah, surtout vu le prix de la console.
Et qu'on puisse télécharger les jeux PS1 sur cette console. Et en plus de ça, le truc le plus dégueulasse, c'est que c'est même pas la DualShock qui est mise dans la console. C'est la manette classique, quoi. C'est-à-dire
c'est ça,
sans les sticks analogiques.
Sans les sticks, ouais.
Admettons que sur cette liste-là, il y a les jeux en 3D qui arrivent comme, je sais pas, moi, soyons fous, Legacy of Kain. Je peux pas y jouer avec la croix, quoi.
Bah, c'est une expérience rétro, les mecs. Les gens vont se rendre compte à quel point c'était dégueulasse de jouer au premier jeu PlayStation avec la croix. Le retour en arrière, il va être rude, à mon avis, hein, mais
c'est clair. Voilà. Je pense que c'est là où on arrive aux limites du modèle de la console classique. Particulièrement la génération de la PlayStation. C'est pas des jeux auxquels j'ai envie de rejouer sur un écran HDMI, en fait.
Surtout en plus s'ils gardent les bugs d'affichage de l'époque, parce que je rappelle que la PlayStation, c'est une console qui avait des bugs d'affichage absolument dégueulasses, qui sont corrigés dans les émulateurs actuels, donc si vous jouez sur l'émulateur, vous les voyez pas forcément, mais en gros, vous savez, les lignes pas droites sur PlayStation par exemple, ça c'est des bugs d'affichage de la PlayStation.
Bah le pire, c'est comme on en parlait au tirant au téléphone en préparant l'émission, c'est quand je te disais que ouais, Metal Gear Solid à l'époque sur PS1, t'étais dans des couloirs. Mais t'avais l'impression qu'en même temps que Snake avançait, les couloirs, ça faisait un peu le serpent, tu vois, ça, il bougeait en même temps que toi.
Et du coup, des couloirs.
C'est ça. Vu que c'était un jeu qui était dans un huis clos, t'avais ce sentiment, tu vois, de 3D dégueulasse, mal fait. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, Nintendo 64, il y avait beaucoup de brouillard, et c'était pas terrible, mais au moins, t'avais des murs droits, quoi.
À savoir également que la version japonaise de la PlayStation classique aura des jeux qui seront différents de la version occidentale qui sera commercialisée prochainement, comme la Nintendo Entertainment System classique. Les collectionneurs devront acheter les deux, bien sûr. Bon, pour l'instant, il manque 15 jeux à annoncer. Je sais pas si vous avez envie de faire une liste de courses, mais il y a encore du potentiel dans le catalogue.
Après, enfin, moi, je m'en fous parce que je les prendrai pas, parce que les jeux que je veux, je les ai déjà. Mais par exemple, si je pourrais mettre certains jeux sur la console, je mettrais les jeux les plus emblématiques de la PlayStation.
Déjà, la trilogie Final Fantasy, ça me paraît indispensable.
Ouais, mais après, je pense que Square Enix, ils ont dit, vous êtes gentils, on vous met déjà le 7. Le 8 et le 9, on le vend sur iOS à 15 balles.
Avec
donc
toujours la même traduction dégueulasse, hein, comme ça fera une expérience très rétro.
Avec Cloud. C'est pas Cloud, c'est Cloud. Mais, je sais pas, ouais, je mettrais Metal Gear Solid, Soul River, Tomb Raider. Resident Evil, voilà, enfin des jeux comme ça qui ont marqué l'industrie.
Ouais, des jeux comme Crash, des jeux comme Spyro, mais ça, à mon avis, ça n'arrivera pas puisque ils ont été remakés.
Et même
cette
tu vois
année.
Des jeux que je porte pas forcément haut dans mon cœur, mais ils ont marqué la console quand même à l'époque. Tony Hawk Pro Skater. Et encore, tu vois, dans ce genre d'opération marketing, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'ils proposent pas, par exemple, sur le sol européen, des jeux qui n'étaient pas sortis à l'époque. J'ai toujours voulu jouer à Chrono Cross sur PlayStation, il est jamais sorti en Europe. Du coup, j'ai dû prendre une version US.
Et je sais que ça douillait à l'époque Chrono Cross en version US. Petite remarque au passage. Hein.
Enfin, quand je dis j'ai eu une version US, j'ai eu en version voilà.
J'imagine. Mais moi, je sais que je l'ai acheté une blinde. J'étais joueur d'import à l'époque. Hein. J'ai payé Xenogears, j'ai payé Chrono Cross, et je peux dire que les vendeurs à Voltaire, ils avaient le sourire. Hein, quand
ils se frottaient les mains. Ils faisaient... Ouais, on a mangé que des pâtes cette semaine. Oh, mais c'est tyran. On va manger du caviar.
Ouais, bah comme d'habitude, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Non, c'est pas intéressant, mais ça n'intéressera en gros que les nostalgiques qui veulent un objet de collection.
C'est ça.
Voilà. Bon, Mordred, on va finir sur la news surprise de la semaine.
Ouais, c'est une news qui est tombée la veille du l'enregistrement de ce podcast. On s'est un peu réveillé avec ça, enfin en ce qui me concerne. Telltale est en train de mettre la clé sous la porte, a licencié la quasi-intégralité de ses employés. Il reste 25 personnes sur un effectif de 225 personnes ou 250 personnes. Donc tout à l'heure tu disais la moitié était partie. Non, c'est il y a 90% Telltale s'est évaporé.
Enfin, je disais qu'il était à moitié mort, c'est pas pareil.
Donc voilà, donc il est à 90% mort. Enfin voilà, blague à part, c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer chez
surtout
Telltale.
Surtout que ça a été fait de manière très sale apparemment. Hein,
a été fait extrêmement salement parce que aucun des employés qui a été licencié n'a touché d'indemnisation de licenciement.
Déjà, et en plus, c'est genre, ils étaient pas du tout au courant, ils sont arrivés au taf, on leur a dit, ah, en fait, merci, des bisous, quoi.
Enfin, voilà.
Mais
c'est une situation qui va évidemment impacter plein de développeurs, mais qui impacte également le joueur, puisque, on le rappelle, Telltale avait une saison en cours de The Walking Dead, qui était la saison finale. Cette saison finale va s'achever avec l'épisode 2. Qui sortira donc le 25 septembre.
Alors actuelle, attention, je veux juste faire des précisions parce que en gros ça va de trucs qu'on a vu sur Twitter en fait. Tous ces news là sur qu'est-ce qui va rester etc. Il y a eu aucune confirmation officielle. La seule chose dont on est à peu près certain, c'est que ils vont finir le truc Minecraft qu'ils font avec Netflix là parce qu'ils ont contrat avec.
Ouais.
Tout le reste on ne sait pas, mais il y a de fortes chances que The Walking Dead ça se finisse là. Voilà.
C'est ça. Ouais, c'est également une news qui est annoncée par US Gamer, donc c'est pas que du Twitter, mais effectivement, il n'y a pas d'annonce officielle de la part de Telltale. Et j'y venais, du coup, le projet de série interactive Minecraft Story Mode pour Netflix, c'est là-dessus qu'ils vont taffer. Donc voilà, si vous aviez acheté le Season Pass de Walking Dead saison ultime, eh ben je sais pas trop ce que vous allez pouvoir voir d'autre que l'épisode 1 et 2. Donc c'est très très dommageable. Voilà ce qu'on sait à peu près pour Telltale.
Juste une dernière chose à ajouter, ce qui les a définitivement mis dedans, c'est qu'ils avaient un contrat avec Netflix pour Stranger Things, je crois. Mm-hmm. Et apparemment ce contrat l'a sauté.
D'accord.
Donc du coup, voilà. Ça plus le fait que d'après les analyses qu'on a pu voir, etc., en fait, grosso merdo, à part la saison 1 de Walking Dead, ils ont eu aucun jeu qui a vraiment super bien marché, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ce qui est impressionnant, en fait, c'est que le studio avant Walking Dead saison 1, il a vécu pendant 8 ans. Et après Walking Dead saison 1, il a vécu pendant 6 ans. Telltale, c'est quand même un studio qui, après ce succès-là, a multiplié les projets, a grossi, mais plus que de raison. Et c'est le résultat qu'on voit aujourd'hui. On en parlait déjà, je crois que c'était il y a un an, où il y avait des grosses problématiques de gestion des employés, de crunch, d'employés qui devaient faire des heures sup, qui étaient pas payés.
Surtout, il y avait une gestion tyrannique des employés. Exactement. D'ailleurs, le gars qui faisait ça a été viré. Il a attaqué Telltale en justice il y a pas longtemps, là. Comme quoi, connard jusqu'au bout. Hein,
c'est ça.
Juste au passage. Parce que le gars, je suis sûr qu'il était au courant des difficultés financières de la boîte en plus. Hein. Donc histoire d'être bien sûr de tuer la boîte en même temps, tu vois, tu les attaques en justice pour bien les achever. Mais surtout, enfin bon, après on va pas répéter ce qu'on a déjà dit, Mordran, mais c'est une boîte qui malheureusement n'a jamais su se renouveler, quoi.
C'est ça. Parce que là, on parlait de gestion du studio, mais effectivement, en termes de production, c'est effectivement un studio qui a eu du mal à proposer autre chose. Ces derniers temps, on sentait que Telltale était en train de shifter sur de l'édition. Il y avait notamment des jeux PC qu'ils éditaient en version PS4 et Xbox One. Je pense notamment à Seven Days to Die. Ils en avaient annoncé également un cette semaine dont le nom m'échappe.
C'est le jeu de survie avec de la poiscaille, là, je crois. Mais,
voilà, c'est ça. Stranded Deep.
Peu importe. Voilà, c'est ça.
Donc, effectivement, on sentait que ça shiftait, mais clairement, c'est arrivé trop tard. Il y avait encore énormément de dépenses avec trop peu de rentrées d'argent.
Bah, c'est d'autant plus dommage qu'il paraît que la dernière saison, enfin, ce qu'on a vu de la dernière saison de Walking Dead, ça partait bien, quoi. Donc,
Il paraît, ouais. Et donc, c'est vraiment dommage. Surtout qu'ils auraient pu vraiment mettre un point final à cette œuvre, finalement, qui les avait mis sur le radar des joueurs. Juste une précision, j'ai vu sur Twitter, là, pendant qu'on enregistrait le podcast, qu'il y a un certain nombre de studios de développement qui annoncent qu'ils vont essayer d'aider un certain nombre de personnes qui ont été licenciées de façon abrupte, notamment les studios de Santa Monica qui sont détenus par Sony, me semble-t-il. Enfin bref, l'industrie essaie de se mobiliser un petit peu pour essayer de trouver des jobs à ces personnes-là qui vont se retrouver du jour au lendemain sans rien, quoi.
Ouais, enfin comme d'habitude aux États-Unis, c'est mignon tout ça, mais quand tu vois que les mecs ils sont obligés de déménager à l'autre bout du pays, enfin c'est très
bien sûr.
Quoi qu'il arrive, même s'ils retrouvent du taf, c'est pas tout, quoi. C'est ta vie qui est complètement bouleversée.
Ah, complètement.
Et qui est bouleversée en une minute, quoi. C'est merci, des bisous. Voilà pourquoi je n'envierai jamais les États-Unis. Malheureusement, il paraît qu'on en prend le chemin. Bon, je pense qu'il y a pas grand-chose à rajouter. C'est un cas qu'on a déjà traité, en espérant que les employés s'en sortent. Juste ça. Bon, par contre, les joueurs, hein, vous me la mettez sur l'oreille. Des bisous. You're Spider-Man. Look, next time, leave the fighting to the pros. Okay, but what if there aren't any around? Good one. New York! Now you've been summoned for a special occasion. I'm the one who kept order in this city! Apparently the show's not over. Is there anyone left in New York who doesn't want me dead? A thin line between living and dying. I'm on the edge and I might just die. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Girl problems again. Gotcha! Shut up! I'm coming up. Feel the rush. Hands up. Feel the rush. I said this ain't legendary.
Alors, Marvel Spider-Man, exclusivité PlayStation 4, qui vient de sortir. J'ai joué au jeu, je l'ai fini de long en large en travers, et pour vous expliquer un peu le ressenti que j'ai eu, je vais d'abord vous expliquer le contexte du jeu. Donc on incarne Peter Parker, comme vous le savez, qui a 23 ans, donc ça fait depuis 8 ans qu'il est Spider-Man. Ce qui est cool déjà, c'est qu'on n'assiste pas à une énième origin story du personnage, on sait qui il est.
Avec un Peter Parker ado, insupportable, voilà. Là c'est un adulte consentant.
C'est ça, et donc là on commence, au tout début du jeu, il travaille déjà, donc c'est vraiment un adulte qui a aussi des problèmes d'adulte, il a déjà de la bouteille. Alors, quand on parle d'adaptation de super-héros et de comics, on pense aussi à tout ce qui intersecte en fait à ces œuvres-là, c'est-à-dire les relations entre les personnages et comment ils s'en sortent par rapport aux comics dont ils sont issus. Là, on a des personnages donc qui viennent vraiment de l'univers Marvel, mais certains sont vus sous un œil différent de ce qu'on connaît dans la version soit cinématographique, soit dans les comics. Par exemple, il y a certains vilains qui vont être réinterprétés et qui sont développés d'une manière très intéressante. Je pense par exemple au personnage de Martin Lee, donc qui est Mister Négative. Je trouve que sa progression et ses relations en fait dans le jeu sont amenées d'une bonne manière, tu vois, c'est-à-dire que dans les comics, on a l'habitude d'avoir des méchants très manichéens. Là, on a vraiment des personnages qui ont été travaillés et du coup, ça fait plaisir en tant que fan de comics et fan de Spider-Man. Alors là, c'est beau, je vous parle du scénario et tout ça, mais le plus important quand on parle d'un jeu vidéo, c'est quand même le gameplay.
Ah ouais, parce que
ouais.
Quand j'ai vu Spider-Man, moi je me suis dit Batman Arkham. Alors, est-ce que ce n'est que ça, ce Spider-Man, ou c'est plus que ça?
Alors en fait non, mais Batman Arkham, j'y reviendrai un petit peu après. C'est vraiment pas la source d'inspiration primordiale en termes de gameplay, parce que le gameplay de Spider-Man existait déjà depuis l'époque Spider-Man sur PlayStation 2. Que ça soit dans les mécaniques de combat, les mécaniques d'esquive, et même les déplacements dans la ville. C'est vraiment Activision à l'époque qui a posé les bases en fait pour ce jeu-là. Parce qu'il s'est repris tel quel, c'est-à-dire le système d'esquive est quasiment le même. Et si je me souviens bien de ma mémoire de l'époque, c'est les mêmes touches qui sont attribuées au personnage.
Je précise pourquoi j'ai posé ces questions, parce que tu m'avais dit que beaucoup de gens disaient Batman Arkham, mais non en fait.
C'est ça. Après, ouais, c'est vrai que il peut faire des combos aériens beaucoup plus prononcés que par exemple un Batman. Il peut aussi interagir avec l'environnement, par exemple en tissant une toile et en lançant une poubelle sur un groupe d'ennemis. Mais par exemple, tu vois, là, les déplacements dans la ville, t'as vraiment l'impression de jouer Spider-Man. C'est-à-dire que les animations en fait du personnage, c'est juste ouf. Je pense que c'est le jeu qui a les plus belles animations que j'ai pu voir. Mais tu sens que chaque mouvement a été travaillé et que le plus gros soin en fait du studio Insomniac, il a été mis en fait dans les déplacements et la mobilité du personnage. Et t'as vraiment un plaisir assez fou à contrôler ton personnage. Tu peux vraiment faire ce que t'as envie de faire et t'as pas l'impression que c'est un truc où c'est au jugé. Si tu veux être à cette hauteur là, et bah tu vas être à cette hauteur là. Et à la fin, quand tu maîtrises vraiment ton personnage, bah tu te dis, ok, là, tu sens vraiment le feeling. Et à ce jour, c'est le jeu avec Spider-Man où j'ai le meilleur feeling de déplacement dans la ville. C'est-à-dire que même l'étoile, quand tu les tires, bah elle s'accroche plus au ciel comme par magie. Là, elle s'accroche vraiment sur le toit d'un immeuble. Et du coup, si tu veux faire un tour et te rebalancer de l'autre côté, et bah tu vois vraiment la toile qui s'accroche. Et du coup, tu peux jouer, entre guillemets, avec la physique de la toile.
Bah, c'est pas des toiles invisibles qui ne s'accrochent à rien.
C'est ça. Et du coup, là, tu te dis, ok, c'est assez cool. Mais si tu veux parler, par exemple, des inspirations que Batman Arkham a eu sur ce jeu, Spider-Man, en fait, maintenant, il a aussi la possibilité d'utiliser des gadgets, par exemple. Donc, les gadgets, on rappelle, dans les Batman Arkham, on a des batarangs, etc., qui nous aident en combat. Et bah là, c'est aussi le cas. Sauf que, contrairement, justement, à un Batman Arkham, pour changer de gadget, bah là, t'es obligé de passer par un menu radial, et ça coupe un peu l'action pendant le combat. Alors que Batman, t'avais des touches, des raccourcis qui étaient inclus pendant les combos. Et de même, t'as l'infiltration. Dans Batman, en fait, t'as des salles prédateurs qui s'appellent. C'est des salles où tu dois éliminer un groupe d'ennemis qui sont armés. Et comme Batman, bah, c'est pas Superman, il est obligé d'y aller en mode j'élimine les ennemis un par un. T'as aussi de l'infiltration dans le jeu, mais comme c'est Spider-Man, bah Spider-Man, en fait, il est trop puissant par rapport aux ennemis où il doit s'infiltrer. Et puis même, l'intelligence artificielle est vraiment très bête, quoi. On est digne d'une intelligence artificielle d'un Deus Ex, par exemple. T'as l'impression qu'il voit devant eux, mais pas au-dessus d'eux. Donc du coup, ça casse un petit peu le challenge. Mais après, j'aimerais bien revenir aussi une dernière fois sur Batman. Quand Rocksteady a repris la licence, ils sont beaucoup attachés aux easter eggs et aux fans de comics de Batman. Tu sens que Insomniac, ils ont voulu faire aussi la même chose. Et ça, c'est le truc que je trouve le plus intéressant, parce que tu vois vraiment qu'ils aiment l'œuvre. On a compris ce que c'était Spider-Man, et du coup, on met des easter eggs comme ça à droite à gauche, mais c'est pas juste mis là, si tu veux, pour faire du remplissage. Ils ont vraiment quelque chose d'assez important, et ça, je trouve que c'est le point en plus pour les gens qui aiment cet univers, tout simplement. Alors maintenant, si vous voulez, on peut parler de la ville de Spider-Man. En fait, ça se situe uniquement sur l'île de Manhattan, donc c'est quand même une ville assez grande. mais c'est pas toute la ville de New York qui est accessible. Et là, on arrive sur les choses qui fâchent un petit peu.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, j'allais dire, bah, c'est parfait, 10 sur 10, best game of the year.
On va voir si c'est le best game of the year. Déjà, ça commence mal parce que au tout début, quand on commence le jeu, on doit activer des tours radio qui débloquent la map dans un quartier. Une fois que t'as débloqué cette map-là, et ben ça te met des collectibles à récupérer sur la map. Ok. Et puis, ça te débloque aussi les fameuses missions secondaires. Ça se décompose en deux types. T'as soit une mission scénarisée, soit une mission où il y a un crime qui se passe en cours. Les missions de crime, ça, dans la ville, le côté aléatoire, ça, c'est cool parce que c'est le côté Spider-Man, quoi. Il est appelé, tu vois, le héros du quartier. C'est pour une raison, c'est-à-dire que Spider-Man, il intervient sur ce genre de choses-là. C'est pas un mec qui va affronter Galactus tous les matins. Et ça, c'est le truc qui est sympa. Mais par contre, il y a des missions secondaires. Certaines sont scénarisées et apportent un réel plus ou même peuvent te faire rencontrer certains boss qui sont cachés. Par contre, il y a des missions qui sont totalement inutiles. Un truc qui m'a fait mais vraiment sentir mal quand j'y ai joué, c'est une mission où Spider-Man chasse des pigeons. Il y a des missions comme ça qui n'apportent rien et c'est juste parce que tu vois les pigeons ils volent entre les immeubles et bah c'est pour te dire ouais bah tu vas sauter entre les immeubles et puis tu vas suivre le tracé jusqu'à ce que tu le chopes.
Bon, c'est surtout que ça fait très jeu vidéo en plus quoi. C'est vas-y on te met un challenge.
Ouais voilà, encore on mettrait un challenge si tu veux comme dans Batman avec les salles de défi qui sont optionnelles et pas disponibles dans la voiture principale et qui seraient un à côté pour te faire plaisir. Pourquoi pas ? Mais là c'est vraiment dans le jeu quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de dissonance ludonarrative. Là, c'est vraiment une dissonance ludonarrative, mais flagrante. Et voilà, après, moi, je trouve que tu me dirais quel est le meilleur jeu de super-héros. Ben, je mettrais quand même les Batman avant, parce que les Batman, ils ont eu un soin tout particulier qui a été fait au quête annexe et à ce genre de choses-là. Là, Spider-Man, tu sens qu'ils ont voulu aller dans le côté Batman, mais il y a encore des choses qui manquent pour faire que ce jeu-là soit vu comme l'étendard des jeux super-héroïques, quoi. Après, c'est le meilleur jeu Spider-Man auquel j'ai joué, quoi. Voilà, je sais pas si vous avez des questions ou pas sur le jeu.
Bon, t'as été relativement clair. Norman.
Ouais, moi ça me paraît bien. Je pense que t'as répondu aux questions que les gens se posaient le plus. Côté répétitivité et tout. Non, c'est un jeu qui fait envie, hein, c'est clair.
Pour résumer, hein, tu me dis si je me trompe.
Oh, bien sûr.
C'est un jeu qui n'invente rien. Mais c'est un jeu qui fait bien ce qu'il fait, mis à part peut-être cette volonté à tout prix de vouloir mettre du contenu, quitte à ce que ça fasse un peu remplissage par moment, quoi.
Voilà, c'est ça. Si vous êtes fan de Spider-Man, n'écoutez pas ces podcasts, allez y jouer. Si vous êtes fan de super-héros, jetez un coup d'œil parce que ça vaut le coup. Si vous aimez bien les jeux en open world, bah ça vaut quand même le coup de jeter un coup d'œil parce que ça peut être intéressant. Mais après, si vous avez vraiment marre de tous ces jeux-là qui sont répétitifs, les mondes en open world, ça vous sort par les trous de nez. Je pense pas que ce Spider-Man-là va vous réconcilier avec la formule. Ça reste néanmoins un bon jeu qui mérite son succès, je pense. Peut-être que j'attendais un peu mieux de Insomniac après le magnifique Ratchet & Clank qu'ils ont fait, tu vois. Je m'attendais peut-être à un peu plus de finition sur tout le contenu annexe qui était hors du cadre narratif. Parce que vraiment, les missions narratives sont très bonnes, très bien scénarisées. La mise en scène, vraiment, à déchire. Les personnages ont reçu un soin tout particulier. Mais par contre, c'est vraiment le côté open world du jeu qui pêche, et c'est un petit peu embêtant parce que c'est un jeu Spider-Man. Et Spider-Man, je pense que c'est le héros quand même qui a justifié à lui seul un open world, tu vois.
Ouais.
Tout à fait. Puis bon, il a aussi des défauts récurrents des jeux Sony, quoi. Enfin, c'est les mêmes défauts que God of War. God of War, il avait le même problème. Il tirait la sauce trop longtemps et il mettait du contenu, on s'en foutait, quoi. Je veux dire, le labyrinthe aléatoire, qu'est-ce qu'on en avait à foutre, quoi. Et là, quand tu me parles des pigeons, moi, ça me rappelle ça, en fait. Tu vois, c'est le côté... Il faut qu'on mette du contenu, à tout prix. Et du coup, des fois, on met des trucs qui sont pas forcément intéressants. Mais, par contre, à côté de ça, on a un jeu qui est super polish, où il y a pas de souci, quoi, en fait. C'est juste que, des fois... En fait, Sony, il faudrait qu'ils apprennent, à un moment donné, avec leur studio, à s'arrêter, quoi. C'est-à-dire ok, là, on a mis ce qu'on voulait mettre dans le jeu, on s'arrête, on rajoute pas plus.
Ouais, c'est ça. Parce que, comme je disais, tu vois, le côté open world, chaque quartier, en fait, a des missions qui sont copiées-collées. Une fois t'as fini cette map-là, bah tu vas dans l'autre quartier pour faire la même chose.
Ça devient routinier, quoi, en fait.
C'est ça. Simplement. Et du coup, t'as vraiment l'impression, entre guillemets, d'aller au boulot plutôt que de t'amuser à être Spider-Man. Et pourtant, tu vois, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Par exemple, là, je parlais de la quête des pigeons. La quête des pigeons, c'est une quête dans tout le jeu. Hein. C'est pas tout le jeu qui est comme ça, mais je l'ai pris parce que c'était vraiment symptomatique, en fait, de ce monde ouvert et des défauts que Sony avait mis dans ce jeu. Mais par exemple, tu vois, il y avait des trucs intéressants parce que Peter Parker À l'époque, c'était un journaliste qui travaillait pour le Daily Bugle, enfin un photographe. Et du coup, bah là, ce qu'ils ont mis dans le jeu, c'est que tu peux prendre des photos de certains monuments. Et tu dis, ah, ok, le clin d'œil, il est sympa, tu vois. Mais après, à côté de ça, tu vois, quand il y a des missions où t'as toujours le même crime qui intervient dans un quartier différent et que c'est la même mise en scène à chaque fois, au bout de la cinquième fois, tu commences à faire un peu la tronche. Voilà.
Voilà. Donc, en résumé, un très bon jeu qui mérite son succès. Juste, si vous en avez ras-le-bol des open world, c'est pas lui qui va vous réconcilier avec ça, quoi.
Exactement.
Allez, on s'arrête là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.
Salut et bon jeu à tous.